Midi 48 pour ce segment de l'émission. Je suis de nouveau rejoint en studio par Philippe Pesant-Bellemare. Bonjour de nouveau, Philippe.
Bonjour de nouveau, François.
Alors, dis-moi, c'est hier, si je ne me trompe pas, il y avait une conférence de presse de la santé publique qui faisait le bilan des leçons tirées de la pandémie de COVID-19.
Oui, plus précisément, on parle de la direction de la santé publique, la direction régionale de la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, son directeur, Yves Bonnet-Vigé, est accompagné par les docteurs Ariane Courville et j'ai comme un blanc, là. Marc Dionne, je crois, ainsi qu'avec la chargée de projet Lorraine Chartier, qui étaient les co-auteurs du rapport, pour revenir un peu sur la période de janvier 2020 à juin 2022. Donc, l'objectif de ce rapport-là, là, en quelque sorte, c'est de tirer des constats, de pouvoir améliorer la capacité de la santé publique à répondre à une nouvelle pandémie s'il devait y en avoir une, ou de façon générale à améliorer sa manière de travailler.
Oui, si je me rappelle bien, me fie à la lecture de la nouvelle que tu as écrite, que je lisais tout à l'heure, justement, c'est voir comment la communication entre le national, le régional et à l'interne permet de mieux répondre.
En fait, ça, c'est vraiment un des aspects du rapport, là. C'est pas vrai, le focus n'est pas spécifiquement là-dessus. Le focus est beaucoup sur le fonctionnement interne au sein de la direction régionale, notamment, c'est un rapport quand même de 200 pages, il y a beaucoup d'éléments, ça inclut les annexes, mais qui a été réalisé avec des entretiens qui ont été faits avec des membres du personnel de la direction de la santé publique, mais aussi avec les membres des organismes partenaires. Donc, c'est 126 entretiens, entre autres, qui ont été menés sur des entretiens individuels ou en groupe. Il y a aussi eu un examen des différents documents qui ont circulé à l'interne, des courriels, des communications, etc., pour regarder et poser ces constats-là. Ce qu'on observe, grosso modo, en conclusion, c'est que, effectivement, tu le mentionnais, il y a une certaine... il y a eu des divergences entre la manière de procéder du national au niveau de la santé publique et les prérogatives régionales. Et ça crée des frictions. Ça fait en sorte que des fois, ça rendait le message un peu confus. On s'en souvient, là, il y avait différents messages. Des fois, c'était pas clair qu'est-ce qu'on devait retenir de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même souligné par le docteur Bonnet-Vigé. On peut l'écouter notamment parler de... En fait, excuse-moi, on va revenir là-dessus plus tard.
Oui, pas de problème.
Je mélangeais mes extraits, désolé. Mais un des éléments qui a été soulevé, par contre, c'est justement que Monsieur Bonnet-Vigé souhaite une meilleure participation des citoyens et des citoyennes à tous ces processus-là de la santé publique. On peut l'écouter à ce sujet-là.
Une des façons qu'on pense mettre en œuvre, on vient de discuter ça dans deux journées de réflexion qu'on vient d'avoir, c'est que pour chacune des interventions qui font partie des programmes de santé publique, on pourrait très bien avoir un petit comité de citoyens qui nous donnerait son avis sur ce qu'on propose de faire. Si je prends un exemple, par exemple, on intervient pour diminuer la vulnérabilité de certaines familles, qu'ils soient dont les parents sont peu allés à l'école ou les parents vivent une situation de pauvreté importante ou des choses comme ça, puis qui ont des enfants. On appelle ça le programme CIP. Donc, ce programme-là, il part de données probantes, de bonnes intentions, avec des professionnels bien formés. Mais si, en plus de ça, on avait un comité, par exemple, avec quelques usagères ou usagers du programme, avec des partenaires du communautaire, parce qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les organismes communautaires, avec des partenaires des CPE. Donc, on pourrait avoir un petit comité aviseur, si on peut dire ainsi, à qui on exposerait notre programme comme en début d'année. Par exemple, on a l'intention de faire ci, faire ça, on va apporter telle ou telle amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis qu'en fin d'année, on puisse revenir avec eux puis dire, écoutez, on a fait ci, on a fait ça. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que vous avez d'autres suggestions, etc.? On créerait un lien, une collaboration entre une équipe de santé publique qui intervient concrètement et qui serait donc des gens que l'on connaîtrait. Si on fait ça, on a une centaine de programmes. Alors imaginez qu'on a une centaine de comités comme ça qui sont en lien avec des professionnels. On va avoir créé un réseau de collaborateurs et collaboratrices et à partir du moment où on arrive dans une situation d'urgence où on est tous déstabilisés, ce réseau-là va déjà être une première assise pour diffuser des messages, améliorer l'éducation, nous faire surgir les problèmes qui peuvent se poser.
En plus des participations citoyennes qu'ils souhaitent, on s'entend qu'un des enjeux qu'il y a eu autour de la pandémie, parfois avec la difficulté qu'il y avait à comprendre l'information, c'est qu'il y avait une certaine désinformation aussi.
Oui, effectivement. Puis bon, comme mentionnait M. Bonnivigé, évidemment, d'avoir plus de citoyens qui participent aux différents processus de la santé publique, ça visera en partie à aider à résoudre ça. Mais il y a aussi, bon, effectivement, l'aspect que ça reste un enjeu de taille et on peut écouter à ce sujet-là, les docteurs, la chargée de projet Lorraine Chartier, le docteur Bonnivigé et le docteur Marc Dionne.
C'est certain que les personnes ont mentionné qu'il y avait cette désinformation-là, des fois qui allait à l'encontre de ce qu'ils voulaient bien expliquer, mais dans l'ensemble, je vous dirais que les citoyens répondaient bien aux directives et aux enquêtes qu'on posait.
Ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que cette méthode de collaboration, de participation citoyenne au sein du réseau de la santé et particulièrement en santé publique va beaucoup aider à désamorcer des rumeurs qui partiraient à droite et à gauche. Et effectivement, pour celles et ceux qui ont regardé les prospectives du gouvernement fédéral, le danger le plus important, c'est que les gens ne savent plus à qui se fier. C'est le risque le plus important et le plus probable dans les prochaines années. Alors, je pense que quand on parle de ce lien qui doit exister entre les citoyens, les citoyennes et les institutions, ça sera une façon de contrer la désinformation qui pourrait arriver. Mais on ne fera évidemment pas de miracle, mais vous comprendrez que plus on est lié, plus on se fait confiance, plus ça sera facile de naviguer à travers ça.
Dans les rencontres qu'on a eues, c'est moins la désinformation que la nécessité d'une bonne coordination dans les messages. Parce qu'on a rencontré des partenaires et les choses allaient tellement vite. La santé recevait ses messages, l'agriculture des messages, l'éducation des messages de leurs différents réseaux, la santé au travail. Donc là, il y a eu des fois peut-être quelques jours de flottement entre ce qu'un ministère pouvait annoncer par rapport à ce qu'un autre ministère pouvait annoncer. Puis souvent aussi, au fur et à mesure que la pandémie avançait, les directives gouvernementales était moins explicité. Donc, il fallait les chercher un peu de l'information pour pouvoir comprendre exactement qu'est-ce qui était annoncé au niveau central. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu dans les entretiens qu'on a eus, c'est un grand besoin de cohérence gouvernementale.
Et qu'est-ce qu'on retient d'autre du rapport, Philippe?
Bien, ce rapport-là sur les apprentissages de la pandémie dit quand même, n'a pas que des éléments négatifs à rapporter. Entre autres, on parle, de les bénéfices du travail collaboratif, l'apprentissage des outils informatiques pour justement, on sait le travail à distance et tout ça, mais aussi au niveau communicationnel, tout ce qui est les modes de gestion participatifs. Donc, c'est des éléments qui sont ressortis positivement, qui sont restés aussi, en quelque sorte, dans la manière de travailler de la santé publique. Mais néanmoins, la question se pose, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment lors de la pandémie? On peut écouter à ce sujet, donc, le docteur Yves Bonnivigé ainsi que la docteure Ariane Courville.
Je dois dire qu'au début, comme on ne savait pas à quelle bête on avait affaire, on a été très sévère dans nos mesures. Je ne sais pas si on pourrait le faire différemment, mais j'imagine qu'avec l'expérience qu'on vient de prendre, on serait beaucoup plus attentif aux effets psychosociaux des mesures même aussi qu'on met en place. Quand ça brûle, il faut des fois démolir la maison pour pouvoir aller sauver les gens, mais quand on ne sait pas trop si ça brûle ou ça brûle pas, puis il faut quand même, on pense qu'il faut vraiment démolir pour aller sauver les gens, on le fait, puis ça peut avoir un impact majeur. Alors, peut-être que l'impact de nos mesures, on le mesurait pas suffisamment avant, faute d'expérience. Alors, on a appris de ça, donc on ferait probablement plus délicatement les mêmes choses si on avait à le refaire, je dirais.
Je pourrais peut-être ajouter qu'en lien avec la vaccination, on était très enthousiastes de l'arrivée du vaccin. Puis évidemment, pour nous, c'était un grand soulagement, puis pour tout le monde finalement. Par contre, rapidement, on a vu que le vaccin prévenait très bien les effets négatifs, les hospitalisations, les complications. Par contre, n'empêchait pas la transmission. Donc, on aurait souhaité avoir un meilleur outil peut-être. Puis en sachant que la transmission ne pouvait pas être arrêtée complètement par le vaccin, puis en voyant qu'on avait des variants de plus en plus contagieux, c'est possible qu'on aurait peut-être pu, comme le disait Dr. Bonnivigé, y aller plus mollo là, éventuellement avec les mesures une fois que toute la population a été vaccinée. Ça a pris plus de temps peut-être pour refermer le robinet des mesures là, parce qu'on avait encore un peu d'incertitude. Mais c'est comme vous dites, c'est facile à dire après coup, là, puis sur le coup, c'était peut-être pas une évidence pour tout le monde.
Philippe, le docteur Dionne soulevait plutôt la vitesse avec laquelle les mesures étaient annoncées comme un des défis là, de la pandémie.
Oui, effectivement. Puis bon, on en a parlé plus tôt, hein, la question du national versus le régional, dans qui doit dicter les mesures de santé publique. Le rapport arrive à la conclusion que c'est nécessaire d'assurer une vraie indépendance de la santé publique par rapport aux sphères politiques, d'une part. Mais justement, là, durant la conférence de presse, le docteur Bonnivigé et la docteure Courville sont revenus justement sur cet élément-là de la cohérence du message entre le national et le régional.
Il faut se rappeler que la façon dont notre réseau de la santé et des services sociaux est organisé du point de vue de la santé publique, c'est que il y a une responsabilité très grande qui est donnée au directeur ou à la directrice régionale de santé publique. Chacun des directeurs, chacune des directrices est responsable de l'ensemble des interventions qui sont mises en œuvre au niveau de la région. Et il est redevable au ministre, donc finalement à l'ensemble de la société, de ce qu'il fait. C'est pas une direction comme les autres à l'intérieur des CIS et des CIUS. Alors, à ce titre-là, il y a des décisions qu'on aurait pu prendre beaucoup plus au niveau régional, comme c'était le cas dès le départ, d'ailleurs. Mais à un moment donné, il y a eu un glissement où on a voulu faire tout pareil partout. Et ça, ben, dans des régions comme nous autres, où on était moins touchés, ça a eu des inconvénients. Ça a eu des inconvénients aussi. En fait, dans l'ensemble des régions plus périphériques, ça a causé des problèmes parce que la réflexion se faisait en fonction des grands centres principalement. Alors, la tendance à vouloir uniformiser toutes les interventions, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on répète dans d'autres contextes, mais au niveau du gouvernement, au niveau de notre direction générale, il faut laisser plus d'initiatives aux régions. Les équipes sont formées pour être capables de le faire et être capables d'assumer aussi les conséquences de ce qu'elles font. Dans le projet de loi là, qu'on est avec Santé Québec, on parle de décentralisation, mais il faudra voir si ça va se réaliser réellement. Parce que les régions sont toutes différentes. J'irais jusqu'à dire que chaque village et ville est différente, mais au niveau régional, on a quand même un niveau de ressources et de capacités qui nous permet de s'adapter correctement à la réalité de notre région. Donc, je pense que ça, il faut maintenir cette capacité-là, cette flexibilité-là.
Le rapport que vous avez entre les mains, les questions qu'on posait aux gens étaient vraiment en lien avec nos interventions régionales. Donc, on a tenté de rester le plus possible dans ce qui était en notre capacité. Par contre, c'est certain qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de s'exprimer aussi sur ce qui s'était fait au niveau provincial. Donc, il y a des éléments là, qui sont ressortis de ce côté-là, mais on a tenté quand même de garder nos pistes d'action assez près de ce que nous, on peut faire là, dès maintenant.
On voit que c'est une large réflexion qui vise à tirer des leçons en termes de souplesse, d'adaptation régionale et de cohérence également.
Oui, effectivement. Et la santé publique de la Gaspésie et des Îles, la direction régionale, c'est l'organisme a fait ça cette démarche-là de son propre chef, de sa propre initiative. Donc, c'est évidemment, ce n'est pas une démarche qui a été faite encore à l'échelle provinciale. Donc, peut-être que c'est ça qui va suivre. On restera au courant, évidemment.
Très intéressant. Merci beaucoup, Philippe, pour ce suivi.
Merci, François.